Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 99.9. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes dans Décibel. No go. Décibel, une petite demi-heure, voire un petit peu plus aujourd'hui, puisqu'on a une émission spéciale et on sera en compagnie d'étudiants de l'université d'Artois d'Arras.
So no pet, we no dribble, we no soda, we no powder. We no better respect the elder entertainer. We no nurse, we no pet, we no dribble, we no soda, we no powder. All of the foundation said respect that. We no nurse, we no pet, we no dribble, we no soda, we no powder.
Amis, entendu les cris sous pays qu'on enchaîne.
Et oui, cette fin de générique justement est très appropriée puisque aujourd'hui, émission un peu particulière, on va évidemment revenir sur les derniers événements qui nous ont fait un petit peu trembler. Et donc, on est en compagnie d'étudiants de l'université d'Artois, on est en compagnie de Clément, Alexandre, Dimitri et Thiéphaine. Bonsoir messieurs.
Salut.
Bonsoir.
Salut.
Donc vous êtes là évidemment pour réagir. Vous avez vécu évidemment les événements comme nous tous. Et puis, vous ferez bientôt une émission normalement qui est prévue, qui s'appellera. Vous me rappelez le nom de l'émission qui est normalement prévue? Vous
ne savez les naufragés culturels.
Les naufragés culturels, voilà. Donc ce sera un nouveau rendez-vous qu'on vous proposera à partir certainement de fin janvier. Mais pour l'heure, évidemment, vous avez des choses à dire. Et on est là aussi pour vous entendre. Et on va commencer d'abord par un biais d'humeur de Clément.
Eh oui, un petit biais d'humeur. Alors, bonjour à tous. Et comme chaque début d'année, je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous et que cette année soit remplie de bonnes choses. En ce qui me concerne, moi, ça allait. L'année avait très bien commencé, j'étais content. Tellement content de commencer une nouvelle année que pour tout vous dire, ça me dérangeait même pas de travailler, ou bien même d'aller à la fac. Et ça, même après les fêtes, j'étais inspiré, très inspiré. Tellement inspiré que j'avais déjà fini ma chronique mardi dernier, c'est pour vous dire. Et entre nous, pour tout vous dire, je pense que c'était la meilleure chronique que j'avais jamais écrite. Tellement drôle que c'était la première fois de ma vie que je me demandais si je n'allais pas en faire mon métier. Et puis le lendemain, le 7 janvier 2015. Une matinée plutôt funeste, un attentat a eu lieu à Charlie Hebdo, Paris, bilan 12 morts. J'étais triste. Alors le soir, j'ai pas eu envie d'aller au lit, et j'ai préféré prendre un stylo et écrire ma rancœur. Car si aujourd'hui je suis là, c'est pas pour vous dire que j'ai peur, non, loin de là. C'est pour vous dire que ces hommes n'ont pas seulement assassiné des êtres humains, ils ont assassiné un symbole et une valeur, la liberté d'expression. Au nom de quoi ? Une interprétation d'une religion. Alors oui, soyons 66 millions à avoir la même idée, soyons 66 millions à résister aux valeurs qu'ils veulent nous retirer, et bien sûr, ayons une pensée pour ces hommes et ces femmes qui sont morts pour défendre la liberté, juste parce qu'ils avaient dessiné. Soyons 66 millions à se battre contre l'obscurantisme avec honneur et insolence pour que les idées continuent de rayonner et ne subsiste aucune pression. Et même si vous ne savez pas dessiner, bah prenez des crayons pour que leur combat ait un sens, pour que M. Charb, M. Cabu et M. Tinius et les autres ne soient pas morts pour rien. Laissons tous, chacun de nous, des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent, leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Alors que vous soyez écrivain, dessinateur, peut-être graffeur, musicien, poète et même peintre, que vous soyez une célébrité anonyme, professionnel et même un petit amateur. Faisons en sorte qu'un élan de solidarité naisse et qu'il s'affiche plus loin que sur Twitter. Alors oui, la marche du 11 janvier, elle était belle. Elle était belle car elle était fraternelle et on n'avait pas besoin des politiciens venus pour en saluer certains pour que le peuple marche, unis, main dans la main. Alors oui, soyons unis, unis pour faire face à la barbarie et aux amalgames. Et puis, si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir, et oui, si seulement ce drame pouvait nous faire grandir, et qu'un jour, nous puissions nous réunir une nouvelle fois avec le sourire pour croire ensemble à une embellie. Car la liberté, elle n'est pas totalement gagnée, et que seuls nous, nous le peuple, pourrons changer les choses. Alors oui, on peut ou ne peut ne pas aimer Charlie Hebdo, mais lui, Charlie, se battait pour la liberté d'expression. Et il n'est pas le seul, et à savoir que certains sont encore censurés de nos jours. Alors oui, aujourd'hui j'ai mal à l'être humain, parce que je me demande comment on en est arrivé là. Comment la barbarie a grandi dans notre si beau pays, la France, sans aucune trace de dignité. Et oui, malheureusement, j'ai bien l'impression qu'en 2015, le monde, notre monde, a perdu toute humanité.
Merci Clément, et oui en effet on a tué des hommes mais on n'a pas tué des idées et ils ont laissé quand même leurs armes pacifistes massives, je précise en partant, des crayons, des idées, des convictions, du papier, à vous d'en faire ce que vous avez envie d'en faire. On va continuer avec Alexandre et son point de vue justement sur ces événements avec quelques petites précisions. Vas-y Alexandre.
Oui, alors évidemment, on va pas revenir sur les détails précis des faits, mais peut-être juste les rappeler. Dans l'ordre, les attentats ont été commis contre Charlie Hebdo par les frères Kouachi le 7 janvier, 12 morts et 11 blessés, suivi de la fusillade de Montrouge par Hamedi Coulibaly le 8 janvier, donc le lendemain. Ensuite, le jour d'après, l'attentat à la porte de Vincennes, Coulibaly faisant 4 juifs morts lors de cet attentat. Et ensuite, le dénouement. Adam Martin-Goël avec la mort des frères Kouachi par le GIGN. Voilà la fin de cette histoire. Aujourd'hui, nous sommes tous Charlie. C'est le slogan qu'on a pu voir cette semaine un peu partout dans le monde en soutien à l'hebdomadaire Charlie Hebdo et plus généralement à la liberté d'expression, mais pas seulement, aussi pour sauver et montrer l'honneur de la France. Les drapeaux en berne pendant 3 jours, la marche républicaine réunissant près de 4 millions de personnes dimanche dernier à Paris et les hommages rendus aux familles des victimes par le président de la République, ce sont les images qui ont marqué cette semaine tragique en France et même à l'étranger, puisqu'en effet de nombreux pays nous ont montré leur soutien. 44 chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier étaient présents dimanche et c'est cette union qui nous aidera à lutter contre le terrorisme et l'islamisme radical. Et là, attention, je parle bien d'islamisme radical et non de l'islam, qui est une religion de paix et qui n'incite pas à la haine. Il ne faut donc pas faire d'amalgame, ne pas tomber dans les discours haineux et racistes envers les musulmans qui n'ont rien à voir avec ces terroristes qui, soi-disant, voulaient venger le prophète. La France doit être unie, elle doit combattre le terrorisme avec le reste de l'Occident et avec en première ligne les musulmans. Alors bien sûr, il ne suffit pas de déplorer ces atrocités. Il faut mettre en place un dispositif permanent de lutte contre le terrorisme, de meilleurs moyens d'information. Et j'en viens maintenant à une question cruciale, la question des prisons. Est-ce le meilleur moyen pour punir les criminels et les terroristes? Eh bien non, selon un rapport de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, sorti en décembre 2011, qui présente la prison comme un lieu incapable de lutter contre la récidive, voire un moyen contre-productif, si l'on en juge par les taux de récidive relevés par Marie Cretenneau, la rédactrice de ce rapport, qui montre bien dans ce rapport que 63% de récidive, qu'il y a 63% de récidive dans les 5 ans, pour ceux qui purgent la totalité de leur peine, ce chiffre est alarmant. Alors, que faire ? Pourquoi ne pas créer un Patriot Act à la française ? Pourquoi la peine de mort est-elle un sujet tabou dans notre pays ? Toutes ces questions ne sont pas inutiles et le débat mérite d'être clairement posé.
Ouais, alors la peine de mort, attention, hein, on ne va pas trop franchir quand même certaines limites. Par contre, tu nous parlais de Patriot Act qui est assez controversé, qui nous vient des États-Unis.
Exactement.
Tu peux nous rappeler un peu ce que c'est ?
Oui, alors le Patriot Act, c'est une loi antiterroriste votée en 2001 à la suite des attentats du 11 septembre par le président George Bush, qui autorise les services de sécurité à accéder aux données informatiques détenues par les particuliers et les entreprises sans autorisation préalable et sans en informer les utilisateurs. Il a pour but, évidemment, d'augmenter très fermement la sécurité intérieure contre le terrorisme, d'augmenter également des procédures de surveillance par des moyens qui sont conséquents. Il consiste aussi en la protection des frontières et en l'amélioration des services de renseignement. Voilà quelques exemples qui permettent d'expliquer un peu ce qu'est le Patriot Act, qui a été refusé par Manuel Valls. Mais Manuel Valls a proposé autre chose. Il a proposé notamment de muscler la loi antiterroriste avec des mesures comme l'isolement dans des cellules individuelles de certains djihadistes considérés comme dangereux, le renforcement des contrôles sur les réseaux sociaux, notamment pour éviter l'endoctrinement et les incitations à rejoindre le djihad, et bien sûr pour censurer les sites faisant l'apologie du terrorisme, chose très normale, et plus de 1000 postes supplémentaires seront pourvus dans le domaine du renseignement et de la sécurité d'ici 2017, car les moyens d'investigation sont défaillants.
Ok, donc qu'est-ce que vous en pensez, peut-être les autres
Agir, je pense, le plus vite possible, pour au moins pour marquer le coup. Après, à étudier ce qui est bon ou pas bon, mais je pense qu'il faut, de toute façon, il faut agir.
Et surtout, le débat aujourd'hui, il est vraiment, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des cas comme ça ? Parce que c'est vrai, les prisons, j'ai des chiffres, hein, on pourra en parler tout à l'heure peut-être, mais c'est vrai quoi, après un attentat comme ça, que faut-il faire pour éviter cela ? Parce que c'est vrai que des marches de rassemblement, ça peut unir un pays, ça peut donner une dynamique, bien sûr, mais que faut-il faire concrètement aujourd'hui au niveau de la loi et de la législation pour éviter et punir des actes aussi criminels que ceux-là ? C'est la question. C'est pour ça que j'évoquais la peine de mort tout à l'heure. Je ne suis pas en train de faire la pub pour la peine de mort, pas du tout.
Ah ouais, j'espère bien.
Oui, bien sûr, mais je dis juste simplement que ça ne doit
on
pas être...
On s'est quand même battu
ça
pour
doit...
qu'elle ne soit plus là,
bien
cette
sûr,
peine de mort.
Mais justement, il ne faut pas l'enterrer. Ce n'est pas un sujet qui doit rester tabou. Toutes les lois qui ont été abrogées, etc., il faut... Enfin, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. C'est-à-dire
ouais.
que
bah, tu t'as,
voilà.
assumes,
il faut en parler.
Exactement.
Et j'assume complètement.
Bon, tout à fait. Et tu nous parlais de chiffres donc tout à l'heure sur les prisons. Tu en as quelques-uns à nous proposer ?
Oui, alors d'après ce rapport de l'Observatoire international des prisons, j'ai évoqué le chiffre de 63% dans les récidives, mais il y a aussi 55% pour ceux qui ont un bracelet électronique. Donc c'est-à-dire que 55% des détenus sous bracelet électronique, une fois qu'ils sortent de prison, récidivent. Donc c'est un chiffre, encore une fois, assez alarmant, puisque c'est plus de la moitié. 45% pour ceux qui bénéficient d'une peine alternative, comme le travail d'intérêt général, par exemple, ou encore, un peu moins, mais quand même, 39% de récidive pour les libérations conditionnelles.
Après vient la question aussi de l'éducation nationale, hein, qui est un gros débat pour nos jeunes générations, mais aussi, pourquoi pas, rendre ces lettres de noblesse à l'éducation populaire et à la culture, qui servent également de médiateurs, pour peut-être essayer de voir les choses autrement. Donc, c'est une grande question.
Justement, par rapport à l'éducation, quel rôle doit jouer l'éducation dans ce problème ?
L'éducation, c'est le futur, donc c'est dans les générations futures qu'il faut agir, qu'il faut apprendre. On est dans un monde où on peut parler, dans un monde où on accepte beaucoup de choses qu'on n'acceptait pas avant. Donc voilà, c'est par l'éducation qu'on changera les choses, c'est par la culture, parce que voilà, il y a plein de sujets encore tabous et faut pas avoir peur des choses, faut dire les choses comme elles sont. Et malheureusement, c'est voilà, Charlie Hebdo n'avait pas peur de dire les choses. Et faut que ça rentre dans la culture, et je pense que c'est pas encore dans notre culture. Mais ça viendra par l'éducation.
Ouais, tout à fait. Si on parle concrètement par rapport à l'éducation, qu'est-ce qu'il faut faire pour... est-ce que par exemple, il faut enseigner l'islam à l'école ?
Ah. Parce que, alors là, bien sûr, c'est un grand débat. On ne va pas évidemment rentrer dans le vif de la discussion.
Parce que c'est vrai qu'après, la méconnaissance entraîne la peur. Donc si on apprend l'islam à l'école... Peut-être qu'il y aura déjà moins, je vais dire, d'a priori par rapport à cette religion.
On aura de toute façon d'autres discussions à ce sujet. C'en est fait un point de vue. Pour l'instant, ce sont des points de vue qui sont évoqués. Le quoi faire, c'est la grande question. Ouais, voilà, l'après cette marche symbolique. Voilà. Donc on va pas évidemment répondre à toutes les questions, c'est sûr, mais on s'en pose. C'est déjà pas mal. Dimitri, toi, tu vas nous donner un point de vue un peu spécial. C'est un point de vue économiste.
Et oui. Ce soir, je vais vous parler de l'économie et l'économie dans les conditions d'un attentat. Donc, je sais bien qu'il est malvenu de parler d'argent en période de deuil, mais cette situation est rare et l'analyser avec un point de vue économique peut s'avérer intéressant. En effet, tout comme les catastrophes naturelles, les actes terroristes ont un impact sur notre économie. Et oui, le terrorisme entraîne la peur et la peur modifie notre comportement. Prenons l'exemple des attentats du 11 septembre. Dans les semaines qui ont suivi ces attentats, le trafic aérien a connu un ralentissement de 15%, ce qui est énorme. Alors, on peut se demander quelles sont les conséquences provoquées sur notre économie par l'attentat de la semaine dernière. Il y a d'abord des conséquences typiques des attentats, ce sont celles qui sont liées au traumatisme. Alors, ces conséquences, on les remarque par une baisse de la fréquentation des lieux publics, par exemple les transports en commun, les cinémas et même les magasins, alors que les soldes démarraient, c'est là que c'est significatif. Les Français n'ont pas la tête à ça. Selon un sondage publié par les Échos, 12% des Français affirment qu'ils ont réduit leur fréquentation des magasins, et pour plus de la moitié, c'est pour des motifs d'insécurité ou de solidarité. Il y a aussi une hausse de la consommation de médicaments. Et oui, les Français ont peur, et pour se calmer, certains se tournent vers les médicaments. Alors, les ventes d'anxiolytiques et de somnifères ont augmenté de 18,2%, ce qui est énorme, en une semaine. Il y a aussi des conséquences qui sont plus spécifiques au cas de Charlie Hebdo. Donc, ce sont par exemple les ventes de l'hebdomadaire qui ont explosé, littéralement. Un hebdomadaire qui était sur le point de faire faillite et qui se retrouve aujourd'hui à publier 5 millions d'exemplaires. 5 millions d'exemplaires de ce numéro 1178 qui est en rupture de stock dans les kiosques à peine quelques heures après la sortie du numéro, enfin après l'ouverture du kiosque. Et c'est incroyable. Et là, ce phénomène de rareté profite aussi à des personnes immorales et qui ont envie de se faire de l'argent facilement. En effet, certains s'amusent à acheter tous les numéros disponibles chez leur kiosque pour les revendre à des prix d'or. Donc on le trouve sur certains sites à 1000 euros alors qu'il vaut que 3 euros. C'est incroyable et dégueulasse.
C'est pas incroyable, c'est tout simplement honteux.
C'est scandaleux.
Bon, on va pas non plus épiloguer là-dessus, c'est sûr que des dérives, on pouvait s'y attendre, hein, que ça allait... C'est un numéro collector, mais Charlie Hebdo ne s'arrête pas qu'à ça. Voilà. Donc, de toute façon, le point de vue économique est intéressant, puisque oui, en effet, les gens ont peur. Alors souvent, ça entraîne une sorte de frénésie de consommation. Quand les gens ne sont pas rassurés, ils achètent, ils consomment. Et là, apparemment, c'est tout à fait l'effet inverse. Donc, c'est plutôt assez inhabituel. Et en même temps, les médicaments, bah ouais, mais ça, c'est quand même un peu spécial. On reparlera évidemment et on y reviendra, j'espère, à l'avenir et dans l'année qui suit sur les conséquences de tout ça. Thiéphen, toi tu vas nous donner plutôt ton point de vue et évidemment sur ce qui était très attendu, le nouveau Charlie Hebdo.
Eh oui, moi je ne vais pas vous parler des attentats de la semaine dernière mais plutôt de ce qui se passe après. C'est ce mercredi 14 janvier qu'est sorti, comme à son habitude, l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Le premier après ces événements. Un journal dont la première page est signée Luz, caricaturant une nouvelle fois le prophète Mahomet, la larme à l'œil, et tenant une pancarte « Je suis Charlie ». Illustrant la phrase « Tout est pardonné ». Les réactions face à cet exemplaire sont mitigées et créent une nouvelle fois une polémique, voire un scandale. Interdit dans plusieurs pays arabes, certains vont même jusqu'à dire qu'il attise la haine de nouveau et qu'il n'est ni raisonnable, ni logique, ni sage de publier de tels dessins. Les responsables de l'islam de France ont appelé au calme. Charlie Hebdo, de nouveau en péril ? Face à ça, la ministre de la Culture répond « Que c'est bien ça, l'esprit français, l'humour ?» L'impertinence et parfois la provocation. Les survivants de Charlie Hebdo, eux, approuvent leur publication et le justifient. notre Mohamed à nous est plus sympa que celui brandi par ceux qui ont tiré. C'est un homme qui pleure avant toute chose. L'état d'esprit, je suis Charlie, cela veut dire aussi le droit au blasphème, a résumé leur avocat, réfutant toute accusation raciste. Mais bon, malgré toutes les critiques, toutes les menaces et tous les mécontentements des personnes, le journal s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Et c'est alors que Charlie Hebdo, qui était au bord de la faillite avec 60 000 exemplaires vendus par semaine, se retrouve soudain avec des millions et des millions de nouveaux amis. Surpris, écœuré, le rédacteur en chef, Gérard Biard, répond à ses lecteurs tout neuf. « Nous ne sommes pas dupes. Beaucoup sont de passage. Ceux qui sont Charlie se reconnaîtront et nous emmerdons tous les autres, qui de toute façon s'en foutent. » Il rappelle également qu'être Charlie, c'est être laïque, c'est aussi assurer l'exercice de l'égalité, de la liberté et de la fraternité.
Tout à fait. Bon, ils ne sont pas encore vendus, les 5 millions. Hein. Les tirages ne sont pas encore terminés. On les attend encore, évidemment, mais c'est vrai que c'est un record. Alexandre, tu voulais réagir
Petite question, peut-être. Est-ce que vous pensez que le journal est allé trop loin en publiant une nouvelle une en caricaturant Mahomet, ou alors, peut-être même, de manière générale, en s'acharnant peut-être un peu plus sur l'islam que sur les autres religions?
La caricature, déjà, ne peut pas aller trop loin parce que c'est une caricature, c'est un dessin fictif. Et puis, il ne faut pas prendre que la caricature, c'est un ensemble, c'est une. Avec un titre, tout est pardonné. Donc, il ne faut pas simplement voir la personne qu'on dit qui est dessinée, mais l'ensemble et le message que, en l'occurrence, Luz a voulu faire passer en mettant en première page. Et moi, je pense que c'est plus fédérateur que accablant. Parce que c'est pas leur état d'esprit.
Mais de toute façon, tout le monde s'attendait à ce qu'ils sortent quelque chose comme ça. Même ceux qui étaient contre se doutaient bien qu'ils allaient aller jusqu'au bout. Mais c'est ça aussi l'esprit Charlie Hebdo. Voilà. Quelqu'un d'autre peut peut-être réagir
Pour ma part, je la trouvais un petit peu molle, cette une de Charlie Hebdo. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus fort. Enfin, connaissant un peu Charlie Hebdo et ses unes qui font beaucoup de polémiques, je m'attendais bien évidemment à une caricature du prophète, mais je m'attendais à une caricature plus insultante, enfin pas vraiment insultante, mais plus piquante en fait.
Ouais, plus piquante, plus provocatrice peut-être. Oui. Bon, moi je pense que c'est une couverture qui est très bien. Après, faut aussi se rendre compte dans quelles conditions elle a été faite, cette une. Donc, j'imagine que ça doit... les cerveaux qui se sont agités lors de cette confection de ce numéro ont dû aller bouillonner à 100 à l'heure. Hein. Donc, de toute façon, je pense que la polémique, elle aurait eu lieu de toute façon, quoi qu'il arrive. Soit elle aurait eu lieu d'un autre côté en disant il provoque personne, c'est pas normal. Ou alors, c'est encore trop de provocations. Et c'est ça, Charlie Hebdo, c'est que ça fait débat et que les gens doivent en discuter sans violence. Et je crois que c'est le plus important, surtout. Alors, je vous remercie d'être passé. Et puis en même temps, on va essayer de se dépêcher puisqu'il nous reste très peu de temps. Moi, j'ai choisi un texte qui est sorti dans le Libération du mercredi 14 janvier. Un texte qui est rédigé par Rewen Ogien, philosophe et directeur de recherche au CNRS, qui s'interroge, lui, en ce qui concerne un fait qui peut évidemment aussi poser à réflexion. Que reste-t-il de la liberté d'offenser? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce texte, je partage avec vous. Des dizaines de milliers de personnes ont exprimé évidemment leur horreur devant les exécutions de la plupart des membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Les mêmes ont proclamé leur attachement indéfectible au principe de la liberté d'expression, comme s'il allait de soi pour tout le monde. Mais ce principe est pourtant continuellement remis en cause pour des raisons qui ne sont pas toutes inacceptables. Ainsi, en France, les propos négationnistes, homophobes, racistes ou xénophobes sont désormais sanctionnés par la loi. S'agit-il d'une atteinte grave à la liberté d'expression? C'est une question dont les philosophes et les juristes débattent sans avoir de solution et qui pourrait faire l'unanimité. En fait, les bases philosophiques du principe de la liberté d'expression doivent être constamment repensées et réaffirmées. Évidemment, l'auteur ne veut évidemment pas dire qu'une meilleure compréhension de ce principe aboutira à ce qu'il soit accepté par tous. Et pour être convaincu par un argument de ce genre, il faut en partager les prémices, le fait du pluralisme moral ou religieux dans nos sociétés. Le souci d'une coexistence pacifique entre groupes ou croyances différentes. Les bénéfices d'un débat ouvert pour toutes les formes de connaissances, etc. Or, tout le monde ne partage pas ces prémices. Mais ce principe pourrait renforcer les convictions de ceux qui les acceptent. Parmi les justifications les plus fortes du principe de la liberté d'expression, il me semble que la plus convaincante reste celle de John Stuart Mill. Alors, il cite évidemment un philosophe qui est né en 1806 et qui était économiste également et qui était d'origine anglaise. Et donc, elle implique qu'il faut distinguer aussi clairement que possible les offenses et les préjudices. Les offenses sont des actes qui provoquent des émotions négatives, comme le dégoût ou la colère, mais pas de dommages physiques concrets à des individus particuliers. Il peut s'agir de représentations écrites ou visuelles qui causent au pire des crimes imaginaires ou des crimes sans victime, c'est-à-dire des réactions de répulsion qui visent des actes dans lesquels on ne peut pas identifier une victime au sens concret du mot. Ainsi, les anges et les dieux ne font pas partie de la classe des êtres qui pourraient être littéralement des victimes, et toute atteinte à leur égard est une offense et non un préjudice. Parlant de ce genre d'offense, ce même Mill citait « Les offenses commises vis-à-vis des dieux sont l'affaire des dieux ». Il ajoutait ironiquement « Il reste à prouver, oh le mandat, il reste à prouver que la société où l'un de ses fonctionnaires a reçu d'en haut le mandat de venger toute offense supposée au Tout-Puissant qui ne constitue pas également un tort infligé à nos semblables. De leur côté, les préjudices sont des actes qui causent ou peuvent causer des dommages concrets, graves et évidents à des individus particuliers. Dans le domaine de la liberté d'expression, on peut parler de préjudices à propos de la diffusion de rumeurs infondées qui portent atteinte à la réputation d'une personne. On pourrait dire aussi que les discours de haine qui appellent clairement à la persécution, la déportation ou l'élimination physique d'une personne ou d'une population spécifique sont des préjudices et pas seulement des offenses. En réalité, défendre la pleine liberté d'offenser ne signifie pas justifier la liberté de causer des préjudices. Il est sûr que les frontières entre offenses et préjudices ne sont pas toujours évidentes. Des offenses peuvent se transformer en préjudices s'il est impossible de les éviter ou si elles sont systématiques et visent un groupe de personnes particulier. Cependant, il me semble qu'il est important de donner à cette distinction la valeur d'un principe général, même s'il n'est pas toujours facile de déterminer ses conditions d'application. Il serait difficile, en effet, de défendre la liberté d'expression sans reconnaître la pleine liberté d'offenser, celle que l'équipe décimée de Charlie Hebdo a si bien pratiquée en se moquant des croyances absurdes et des préjugés racistes ou xénophobes sans jamais causer le moindre préjudice concret à qui que ce soit en particulier. Voilà, donc le texte de Rouen Augien que vous retrouvez dans le Libération du 14 janvier. Et qui évidemment soulève pas mal de réflexions. Et puis vous pouvez également vous intéresser aux travaux de John Stuart Mill, notamment avec un livre qui date de 1859 et qui s'appelle « De la liberté ». Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette différence entre offense et préjudice? Ah, c'est très philosophique, mais en même temps, je pense que c'est une très très bonne réflexion. Et on y nous reste deux petites minutes.
Moi, je pense que comme pour le dessin, c'est toute une question d'interprétation. Et tant que les choses ne seront pas claires, chacun se fera son interprétation. Et c'est là qu'on... Enfin, la vie en société, on peut pas que chacun ait son interprétation en société. Parce que la limite entre offense, préjudice, liberté d'expression... Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression que chacun se fait sa vision et que personne sait où est la limite... Donc voilà, des fois on condamne, des fois on condamne pas, certains pensent qu'il faut condamner. Et on tourne toujours en rond sans trouver les réponses à des questions qui sont pourtant primordiales.
Voilà, quelqu'un d'autre veut réagir? Stéphane?
Oui, bah moi ça me fait bien rire d'entendre à tout va, oui, la liberté d'expression, il faut la sauver, patati patata. Mais bon, il y a trois quarts des gens qui, avant ça, ne prenaient même pas la peine d'y penser ou de s'intéresser un minimum à cette liberté d'expression. Mais bon, c'est ça, en fait, c'est pouvoir avoir le droit d'offenser, de critiquer et puis de parler de ce qu'on veut, avoir le droit de dire ce qu'on a envie de dire. C'est ça. La liberté d'expression.
Mais pas n'importe comment.
Oui, voilà, je pense qu'il y a quand même une limite dans tout ce qu'on veut critiquer et dans tout ce qu'on cherche à caricaturer. Il y a quand même une limite. Et parfois, c'est au-delà de la provocation et ça peut devenir un préjudice pour les personnes qui peuvent se sentir blessées. Parce que moi, je connais par exemple...
Alors, une offense.
Ah,
et non, un préjudice.
Oui, d'accord.
Oui, si mais... tu as bien écouté ce que j'ai dit, la différence est là. L'offense, elle permet évidemment d'atteindre quelqu'un, mais de façon, on va dire, allez, pour simplifier, verbale. Ouais. Que le préjudice définit clairement une atteinte corporelle, voire physique, d'accord. Voire meurtrière.
Donc là, dans ce
c'est cas-là,
on serait plus dans Charlie Hebdo, on serait plus dans de l'offense alors. On n'est pas du tout dans le préjudice.
C'est une forme de liberté, c'est à méditer.
Oui.
La personne l'interprète comme une offense, enfin parce que le Charlie Hebdo dans ses dessins ne cite personne. Tout est une question de la personne qui la prend pour elle, qui la prend comme un message blessant. Et c'est là que qu'il y a des dérives et des gens.
Et c'est aussi pour ça que ce fameux John Stuart Mill était cité. Je vous rappelle la phrase: les offenses commises vis-à-vis des dieux sont l'affaire des dieux.
Oui.
Et là, c'est un peu facile.
C'est toute une histoire. Bon, on va pas pouvoir évidemment continuer plus longtemps parce que l'émission s'achève. Mais je vous remercie quand même d'être passé dans votre première. Faut dire ce qui est, c'est votre première votre grand bain radiophonique. Donc, on aura certainement l'occasion de débattre encore. Et puis, j'invite toutes les auditrices et auditeurs également à venir débattre avec nous. Vous êtes les bienvenus. Donc, n'hésitez pas. Si un jour vous avez envie de vous exprimer avec la liberté évidemment d'expression qui vous incombe, eh bien 03 21 50 99 99. Dimitri, Alexandre, Thiéphane, Clément, merci d'être passé et bonne soirée à toutes et à tous. Salut.
Bonne soirée.
Salut à tous.
Ciao.
Au revoir.